Mesdames et messieurs, bienvenue dans la deuxième partie de l'émission Okapi Service. Merci de votre fidélité à ce programme de la vie au quotidien. Eh bien, de quoi allons-nous parler dans cette deuxième partie de l'émission? Nous allons parler de réseaux sociaux, particulièrement des WhatsApp. Comment garantir la confidentialité des données personnelles sur les réseaux sociaux, particulièrement sur WhatsApp? Vous avez suivi ces derniers jours bon nombre d'utilisateurs de WhatsApp quitte ces réseaux pour aller vers d'autres messageries à cause de la nouvelle politique de gestion des données personnelles de cette plateforme. Il était prévu qu'à partir du 8 février prochain, Facebook va relayer les informations des utilisateurs de WhatsApp, donc Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram, c'est le même groupe. Alors Facebook va relayer les informations des utilisateurs de WhatsApp vers Instagram et Messenger, qui sont les propriétés du groupe Facebook. Les données personnelles comme votre nom, numéro de téléphone, adresse IP et autres seront partagées généralement à des fins commerciales. Alors comment garantir la confidentialité des données personnelles sur Internet et dans ces réseaux? Bien, on en parle aujourd'hui dans cette émission de la vie au quotidien. Nous avons en ligne le professeur Kitumu Maimona Berki, expert en communication web. Professeur, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission, professeur. Nous parlons aujourd'hui de la confidentialité des données personnelles sur les réseaux sociaux. Vous avez suivi ce qui s'est passé, ce qui se passe avec le groupe Facebook, WhatsApp. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on entend par données personnelles?
Voilà. Merci beaucoup. Déjà, je voudrais, avant de répondre à votre question, préciser que, au-delà de cette impression de liberté véhiculée par Internet, rien n'est foncièrement gratuit sur la toile. Hein, tout a un prix, et que ce soit pour les services proposés sur le web ou encore pour les applications du mobile. Internet, en soi, c'est un vaste négoce, et les principaux produits marchands, ils trouvent être les données, les informations. Alors, quand on parle des données personnelles, comme vous l'avez dit, vous l'avez décrit dans votre introduction, ce sont plus des données liées à la personne, à l'utilisateur. Ses coordonnées, ses envies, ses besoins, ses intérêts. C'est ça, en fait, qui constitue les données personnelles. Et normalement, les applications ou les plateformes signent avec les utilisateurs à une politique. Hein, ils se conviennent d'une politique de confidentialité dans laquelle ils mettent les utilisateurs en confiance pour leur dire, voilà, vos données telles vos coordonnées, vos noms, vos numéros ne seront pas divulgués en ligne, ça se restera entre nous, même vos différentes informations. Voilà.
Professeur, et pourquoi c'est les gestionnaires de ces réseaux demandent des informations personnelles des utilisateurs?
Okay. Alors, comme je disais tantôt, ces plateformes, hein, ont besoin de vivre, parce que même s'ils se présentent comme être des outils gratuits, il y a une valeur et un statut économique de l'information qui sont mises à notre disposition. Donc du coup, pour vivre ces plateformes, soit elles recourent à de la publicité. Le WhatsApp, quand il a été créé en 2009, au début, vous avez une première année où vous l'utilisez gratuitement, mais dès la deuxième année, vous devez commencer à payer un abonnement. Mais une fois racheté par Facebook a commencé par la publicité. Et vous connaissez Facebook a comme principale activité au-delà de la plaque l'aspect communicationnel qu'il nous propose, il y a la vente des données, la vente des informations. Donc du coup, ils ont besoin de ces informations. Vendre ces informations aux différents, vous avez dit ça d'ailleurs, pour des fins commerciales, vendre aux différents partenaires qui peuvent, à partir de Facebook, créer un profilage type pour les consommateurs. Donc voilà.
Donc ça veut dire, je vous laisse utiliser mon réseau, soi-disant gratuitement, mais en réalité, j'utilise vos données personnelles pour me faire de l'argent.
Voilà, plus vous communiquez, plus vous donnez de l'information, plus moi, je me fais de l'argent. Parce que je dois vendre ces informations-là, je dois aller vers ceux qui me permettent de faire exister ce réseau, cette plateforme, d'avoir les moyens et puis de vendre, de savoir exactement vous, qu'est-ce que vous voulez, quels sont vos besoins, quelles sont vos envies. À partir de cela, on est on est mis dans cette situation et on nous propose, alors ces entreprises-là proposent directement à Facebook de la publicité qui correspond à votre profil.
Bien, on va accueillir l'ingénieur Pierre Moussafiri depuis Goma. Ingénieur Pierre, bonjour.
Bonjour, je dis bonjour à tous les auditeurs et bonjour à l'invité.
Bienvenue dans cette émission, quelle est votre préoccupation?
Merci, moi je dis ceci, c'est vrai que les informations personnelles doivent être confidentielles, comme nous le savons. Avec WhatsApp, celui qui a ton numéro, c'est celui qui à qui vous deviez échanger, contrairement à ce qui se fait dans les groupes où tout le monde qui est dedans doit y accéder. Maintenant, à WhatsApp, pour garantir la sécurité des données personnelles, WhatsApp doit renforcer ses mesures de sécuriser les données personnelles, et cela pour amener la confiance à ses utilisateurs, sinon il risque de perdre son clientèle. Merci.
Bien, déjà WhatsApp a perdu un bon nombre d'utilisateurs qui ont migré vers Signal, mais on a appris à la dernière minute que WhatsApp est revenu sur sa décision. Je ne sais pas si professeur qui tout nous peut confirmer cela. Professeur, vous avez la parole.
Je voudrais dire à l'ingénieur que, au fait, ce que fait WhatsApp n'est pas illégal du tout. Hein. C'est ni illégal ni immoral. WhatsApp est vraiment dans ses droits, hein, parce que il doit vendre. Et le plus grand problème, c'est nous, au fait, les utilisateurs. On lit jamais cette politique de confidentialité. Vous savez, ce que c'est cette politique de confidentialité, ce sont les petits écrits en petits caractères où vous avez un long texte, vous savez pas lire. On clique, on avance, on va survent. Mmh. Et du coup, à la fin, on se retrouve avoir accepté des conditions qu'on ne peut plus refuser. Alors, c'est WhatsApp a fait. C'est juste revenir, vous préciser que, voilà, vous devez savoir que maintenant, on va faire comme Facebook. Mais déjà, le Facebook le fait. Vous savez, c'est vrai qu'on a tous tendance, même moi, je suis en train de migrer vers une autre application, on a tous tendance à aller vers une autre application, mais ça ne résout vraiment pas le problème, parce que, dès le départ, nous nous créons nous-mêmes des problèmes. Moi, j'ai toujours dit, si vous voulez pas vous retrouver dans cette situation, n'allez pas sur les réseaux sociaux. Mais seulement, on ne peut pas. Ça serait une situation radicale qui, d'ailleurs, ne nous aiderait à rien du tout parce que nos différentes activités, nos actes, tous les actes que nous posons, la plupart des actes que nous posons aujourd'hui est complètement en relation avec Internet. Donc, on ne peut pas être en déphasage avec la toile. Donc, on est obligé de rester là. Et autre chose aussi, vous savez, quand l'ingénieur parle oui, c'est seulement les gens qui sont sur la liste. Vous remarquerez, lorsqu'on installe une application, l'application nous demande une série d'autorisations. L'application nous demande l'autorisation d'aller dans la liste de contacts. On dit OK. Donc, l'application peut aller dans notre liste de contacts, récupérer tous ces numéros-là. C'est pourquoi, par exemple, vous verrez sur votre page Facebook, on vous fait des propositions d'amis, des gens qui sont sur votre liste de contacts. L'application demande une autorisation pour accéder à votre caméra. Si vous n'acceptez pas, vous ne pourrez pas passer des appels. On dit, OK, d'accord, il faut que j'autorise l'application à accéder à ma caméra, comme ça je peux faire des appels vidéo. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'application peut à tout moment activer notre caméra, analyser notre environnement et proposer en fonction de notre environnement ou à partir du micro.
Avec la géolocalisation, on peut savoir où vous êtes et vous proposer des choses par rapport à votre environnement.
Voilà, tout à fait. Pourquoi, justement, quand nous aurons parlé des astuces, refuser la géolocalisation fait partie des astuces.
Bien. Voilà. On va accueillir professeur Kodjo Ndukuma, expert en droit numérique. Il vient de publier avec l'ingénieur Bouya de Pointe-Noire aux éditions L'Harmattan un ouvrage intitulé Dématérialisation et gouvernance électronique. Professeur Kodjo Ndukuma, bonjour.
Oui, bonjour monsieur Jeudi et bonjour aux collègues Kitoumou.
Bienvenue dans cette émission qui s'intéresse à la confidentialité des données personnelles sur les réseaux sociaux. Vous avez évidemment suivi cette affaire qui défrait la chronique WhatsApp qui décide de Facebook, disons le groupe qui décide de partager les données personnelles à d'autres messageries comme Instagram et Messenger. Alors beaucoup de gens quittent aujourd'hui WhatsApp pour aller vers Signal. Alors on se pose la question de savoir si aujourd'hui il est encore possible de garantir la confidentialité des données personnelles sur les réseaux sociaux.
Bon, déjà, ce que WhatsApp fait, c'est une synergie de groupe. WhatsApp, aujourd'hui, est avec Facebook et Instagram. Et il faut savoir que Facebook a acheté WhatsApp en 2014. La question qui se pose, c'est celle de la fin de la vie privée, où vous avez pas de rupture de faisceau. Ce que vous faites par WhatsApp n'est pas cloisonné avec ce que vous faites sur Facebook, n'est pas non plus cloisonné avec ce que vous faites sur Instagram. C'est ça le danger, d'être complètement à nu, sans pour autant avoir la possibilité de se retrancher derrière la rupture des différentes applications que nous avons. Maintenant, les données personnelles, c'est quoi? Parce qu'on les collecte à tout moment. J'ai bien suivi mon collègue Kitumu qui parle de la différence entre la politique de confidentialité. Moi, je vais rajouter sur les données personnelles. Les données personnelles, c'est comme un œuf. Hein, ça veut dire, on le dirait en lingala, un liaki. Alors, il y a le jaune d'œuf qui comprend nos informations nominatives. Notre nom, notre adresse, notre sexe, notre âge. Et peut-être même notre localisation. Et ça, on entre ça généralement lorsqu'on veut ouvrir un profil Facebook. Donc Facebook a déjà ces données. Ensuite, vous avez le blanc d'œuf qui est constitué des différentes données qui sont nos traces technologiques. Ça veut dire les données de connexion, les données d'authentification, les données de navigation, ainsi que les données biométriques, surtout pour les gens qui ont des empreintes digitales, au lieu de code PIN pour ouvrir leur téléphone. Maintenant, ce qui se passe, c'est que Facebook, qui compte 1 milliard d'utilisateurs de WhatsApp, plus ou moins 2,7 milliards d'utilisateurs de Facebook et d'Instagram, constitue une puissance qui vous dit « je vais mélanger toutes ces données ». Et à partir de là, vous avez maintenant toutes les conséquences dont a parlé le professeur Kitumu, en disant que on peut vous cibler, on peut vous géolocaliser, on peut vous envoyer une publicité personnalisée. En tout cas, votre vie privée est totalement à nu. La petite chose que je peux ajouter, c'est une anecdote où il y a une personne qui avait demandé asile politique dans un pays européen et qui s'est fait photographier à Mwanda avec Facebook. Alors, les services spécialisés à l'étranger ont dit, ben monsieur, on va casser votre asile ici en Europe parce que, en fait, on a vu que vous étiez allé dans votre pays où vous êtes censé fuir une menace. Et bien au contraire, bien plus, vous étiez encore à Mwanda. Ça veut dire que vous n'êtes pas seulement arrivé à Kinshasa, mais dans votre village natal. Donc, en ce moment-là, quand on utilise nos données personnelles, ça a des conséquences réelles sur le plan administratif, sur le plan de la vie privée, sur le plan personnel et sur le plan d'autres conséquences. Oui. Donc c'est ça le grand risque.
Bien, on va accueillir Gilbert Lokwa Luando de Mbandaka. Bonjour Gilbert.
Bonjour la radio Kapi et bonjour aussi à l'invité.
Quelle est votre préoccupation?
Monsieur le journaliste, je voulais dire, créé en 2009 et acheté par Facebook en février 2014 pour un montant de 22 milliards de dollars, l'application WhatsApp avait objectif de remplacer Facebook, SMS. Mais l'application s'est servie aujourd'hui pour un support de plusieurs, je voulais dire, mais l'application s'est retrouvée à plusieurs reprises au centre de vives critiques portant sur sa sécurité informatique, notamment sur la confidentialité des informations personnelles. Ils sont échangés et aussi et surtout WhatsApp a servi.
Oui, Gilbert, voilà, il est parti, il n'est plus en ligne. Alors, professeur Kodjo, aujourd'hui, on peut dire qu'il est difficile de garantir la confidentialité des données personnelles avec tout ce que vous venez de dire.
Il est très difficile de garantir la confidentialité des données personnelles parce que simplement ces données sont éparpillées sur l'ensemble de l'Internet. Ça veut dire que dès que nous nous connectons à Internet, nous nous connectons à un port d'attache. Je vais donner un exemple très simple avec les sociétés de télécommunications pour qu'on n'aille pas trop dans Internet. Lorsque vous passez un appel téléphonique, vous voyez simplement le numéro du correspondant apparaître sur l'autre téléphone. Mais dans le serveur, dans le système intelligent du réseau téléphonique, vous avez toutes les données qui renseignent sur le type de téléphone et sur, par exemple, l'endroit où vous vous avez appelé. Mais ces données sont conservées. Et c'est ça le but de la confidentialité. Ça veut dire que lorsque nous acceptons l'accès à notre caméra, l'accès à notre répertoire téléphonique, l'accès à notre micro par WhatsApp, nous nous disons que nous le faisons uniquement pour WhatsApp. Et si WhatsApp doit le partager avec Facebook, ça ne fait pas partie du contrat des conditions générales d'utilisation. Maintenant, le fait qu'on décloisonne, ces remparts, ces barrières, ça fait que nous n'avons plus aucun secret de notre vie privée. Mais seulement, et on précise, ces questions se posent avec les Africains et avec les restes du monde. Parce que l'Europe s'est protégée face à ces questions de partage de données personnelles. Ces données personnelles qui sont utilisées par Facebook, par WhatsApp, restent dans les serveurs européens depuis le RGPD, donc Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles. Donc les Européens ne sont pas trop concernés par ce qui se passe avec la modification de la politique de confidentialité de Facebook, WhatsApp, Instagram, parce que c'est un groupe. Les Américains eux-mêmes, ils ne sont pas aussi inquiétés parce que Facebook répond aux droits américains. Et Facebook, en fait, utilise le Patriot Act et le Freedom Act, qui consistent à poursuivre les données personnelles des Américains dans tous les serveurs qui peuvent exister dans le monde et de leur accorder une protection ou une exploitation qui est conforme aux droits américains. Donc, nous, en Afrique et dans le reste du monde, nous sommes totalement exposés. Le collègue Kitumou l'a dit de manière pertinente, quitter WhatsApp pour aller sur Signal ou sur Instagram, Signal ou Instagram vous donne les mêmes conditions à accepter pour l'accès à tout ce qui est appareillage électronique de votre téléphone. En fait, aujourd'hui, il y a 25 millions de personnes qui ont quitté Facebook, mais ça représente quoi sur le milliard qu'ils ont? C'est plus un mouvement contestataire et non un mouvement qui va appeler à mieux protéger les données personnelles. D'autant que l'Union africaine peine depuis 2014 à faire ratifier par les États africains la Convention de Malabo sur la protection des données personnelles et la cybersécurité. Donc, dans une proportion beaucoup mieux mesurée, voici la grande problématique.
Bien. Professeur Kitumou, alors, on a l'impression que la vie des utilisateurs est à nu dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Qu'est-ce que cela peut entraîner comme conséquence?
Comme conséquence, c'est ce que dit le professeur Kodjo. C'est clair que nous sommes exposés, quoi que nous fassions. Je le disais tantôt, si vous voulez pas être exposé, retirez-vous de la websphère. Sinon, il faut accepter. Accepter, c'est pas accepter tout en sans réagir. Accepter, par exemple, avec le mouvement qui a été lancé pour s'opposer à cette mise en ensemble des conditions entre ou le la porosité des d'informations, ce passage d'informations entre Facebook et WhatsApp, mais donc il faut réagir. Réagir, c'est dire non. Réagir, c'est définir des astuces. Sinon, on est. Moi, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai dit à des jeunes que je rencontre souvent aux étudiants, je leur dis maintenant sur Facebook, arrêtez de mettre les photos des petits chats ou des citations, des proverbes, tout ça, parce que de plus en plus les employeurs vont sur Facebook pour définir votre profil. Alors, s'il voit, par exemple, un employeur qui voit que vous avez des citations genre mélancolique, pour un employeur, c'est que vous êtes faible, vous n'êtes pas quelqu'un de résistant, vous ne pouvez pas résister à la pression. Donc, ce que nous subissons, ce que nous risquons aujourd'hui, c'est de ne plus avoir de vie privée. D'ailleurs, nous ne risquons pas, nous n'avons plus de vie privée en réalité. Seulement, on ne nous le dit pas. Ce que WhatsApp a fait, c'est juste nous rappeler que voilà, vous savez peut-être pas, mais maintenant tout sera mis à nu. Voilà.
Donc ça veut dire qu'il y a facilité de contrôler les gens parce qu'on a vos données, on peut facilement vous contrôler.
Mais c'est cela le but justement. L'homme le plus riche du monde, c'est celui qui contrôle l'information. Et puisqu'il contrôle l'information, il vous contrôle aussi. Il sait ce que vous aimez. S'il doit vendre ça à une entreprise à du commerce, il sait exactement ce que vous aimez, il sait exactement avec qui vous êtes, il sait où vous êtes. Vous ne pouvez rien faire. Le professeur Kodjo a donné un exemple de celui qui a été fait avoir à Boma. Oui. En principe, il pouvait se réclamer d'une intrusion à sa vie privée, mais il ne peut pas. Parce qu'il s'est exposé lui-même en acceptant, en s'ouvrant aux réseaux sociaux. Donc voilà.
Comment garantir la confidentialité des données personnelles sur les réseaux sociaux? On en parle aujourd'hui avec professeur Kodjo Ndukuma, expert en droit numérique, et professeur Kitumu Maimona, expert en communication web. Des questions et préoccupations, eh bien, composez le 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net.
Écho du développement. Une émission qui touche à votre environnement immédiat. L'agriculture, l'économie verte, les questions liées au changement climatique et tout ce qui touche au développement durable. Les causes, les conséquences, les pistes des solutions aux problèmes qui affectent la planète, c'est dans Écho du développement. Suivez cette émission tous les jeudis à 9h15 et 20h30, en rediffusion le samedi à 13h05.
Comment garantir la confidentialité des données personnelles sur les réseaux sociaux? Vous avez suivi, WhatsApp a décidé, le groupe Facebook, de partager les informations des utilisateurs à d'autres messageries comme Instagram, comme Messenger, qui font partie du même groupe. Nous avons en ligne Patient Paul de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour Zobin Kachama. Bonjour aussi à l'invité et à tous les auditeurs de la radio au Capi.
Quelle est votre préoccupation, patient?
Bon, c'est juste donc une question de curiosité donc auprès de notre invité. Comme WhatsApp donc s'est décidé de pouvoir partager les données confidentielles avec Facebook et autres messageries. Ma question est de savoir donc pourquoi l'opérateur donc WhatsApp oui, et autres messagerie donc n'aide pas l'humanité à pouvoir éradiquer le terrorisme dans le monde. Comme ils ont la même mise sur les données confidentielles. Exemple de notre commune ici donc dans la ville province de Kinshasa. Est-ce qu'il y a possibilité vraiment que WhatsApp donc, commence aussi à collaborer avec les autorités pour pouvoir un peu détecter donc là où donc les communes, il y a une invasion des communes afin un peu de nous débarrasser avec ces phénomènes. Voilà un peu la question que j'avais à poser à l'invité.
Merci. Professeur Kodjo.
La question tourne autour des finalités d'usage de nos données personnelles. Là, le professeur Kimou, qui a écrit un excellent livre avec le prof Jean-Christian Cambo sur l'Internet en RDC, s'est exprimé sur le commerce électronique. En fait, lorsqu'on massifie les données, vous imaginez, vous avez les données de 3 milliards d'utilisateurs, Facebook, WhatsApp et Instagram confondus, vous pouvez adresser des offres commerciales beaucoup plus affiné. Et c'est ce que Facebook fait d'ailleurs. Il vend les données aux grands groupes d'annonceurs. Vous remarquerez que si vous surfez ces derniers temps-là et où vous avez beaucoup de sujets sur un aspect précis, prenons le football, et vous voyez que chaque fois que vous vous connectez sur d'autres plateformes, on vous offre simplement les publicités en rapport avec le foot. Ça, c'est une finalité d'usage. Mais la deuxième finalité d'usage, c'est une finalité sécuritaire. Il faut lire le livre de George Orwell qui s'intitule 1984, mais ce livre est écrit en 1950, où il explique le Big Brother. Le système aujourd'hui, que ce soit avec Gmail, on parle simplement de WhatsApp, mais avec Gmail ou avec tout le groupe Facebook, les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook et Apple, ils ont des contrats avec les services de sécurité, surtout américains, pour pouvoir échanger les données. Apple refuse des fois à le faire, mais pour Gmail, c'est clair. Et pour Facebook également, c'est la même chose. Donc, on peut facilement pouvoir faire la filature électronique. On n'a pas besoin d'envoyer des personnes humaines, qu'on appelle des sources humaines, pour vous filer. Prenons simplement l'exemple du téléphone. Je prends vraiment un exemple simple. Le matin, vous vous réveillez, vous passez un certain nombre de coups de fil. le réseau intelligent, le système intelligent de la du réseau téléphonique sait qui est-ce que vous appelez chaque jour. Votre femme peut-être ne sait pas que chaque fois que vous sortez de la maison, vous attendez que vous soyez à l'abri pour appeler votre copine. Mais la société le sait. Deuxième chose, on sait à qui exactement vous envoyez l'argent par des transferts électroniques. On sait que vous envoyez de l'argent à votre beau kilo sans que votre femme ne puisse le savoir. On sait également, dans la journée, vous géolocalisez parce qu'il y a des antennes. Chaque fois que vous passez devant une antenne, l'antenne renseigne sur votre parcours. C'est la même chose, comme le disait le prof Kitoumou, avec les applications de géolocalisation que nous activons sur notre téléphone. Donc, à partir de Facebook et des autres réseaux, on peut savoir effectivement profiler un groupe malveillant. Facebook le fait, elle a désactivé, parce que c'est une firme, elle a désactivé à peu près 64 comptes d'un Congolais qui semblait faire du marketing politique. À part cela, vous suivez également les questions avec Apple, parce que les données personnelles concernent tous les GAFA. Ils ont désactivé l'application des géolocalisations sur tous les téléphones Apple qui étaient à Hong Kong pour empêcher la police chinoise qui utilise la filature électronique de pouvoir tracer les manifestants là où ils habitent et les arrêter. Donc, les finalités d'usage des données personnelles font que non seulement notre vie privée est exposée, mais face au Big Brother, face aux puissances, face à l'État, il n'y a plus moyen de pouvoir se cacher. Mais simplement, l'État le plus puissant qui est derrière Facebook, c'est l'État américain. Donc, à partir de ce moment-là, vous vous rendez bien compte que, bien sûr, on peut filer les terroristes. Bien sûr, on peut également avoir des renseignements beaucoup plus affinés sur chacun de nous et sur nos vies et sur ce que nous cachons. Et donc, la question, elle est bien posée sur les finalités d'usage des données personnelles violant la confidentialité.
Oui. Professeur Kitoumou, certains disent que tout ce que vous avez eu à publier sur Facebook ou WhatsApp, par exemple, même si vous les effacez après, mais il y aura toujours des traces. On peut toujours retrouver ces informations-là. Professeur Kitoumou.
Oui, allô. Vous savez, Jody, nous sommes, c'est comme on dit, hein, c'est le monde en réseau. Hein. Tout le monde sait, nous savons tout sur tout, et autant, tout le monde sait tout sur nous. Donc voilà. Alors, Facebook utilise des serveurs. C'est pas bon. Les plateformes-là utilisent ce qu'on appelle des serveurs, hein, des grands ordinateurs qui stockent et qui archivent les données publiées. Alors, quand nous effaçons à notre niveau, je crois même chez Facebook, il faut attendre 30 jours pour que cela soit enlevé des archives. Uh-huh. Même si on l'enlève dans les archives de Facebook, mais ça reste toujours. Puisqu'on l'a dit tantôt aussi que Facebook a pour principale ressource de revenus la commercialisation des informations. Ces informations-là, une fois que nous les publions sur Facebook, en fait, on perd une certaine maîtrise de ces informations. On ne sait pas exactement ce que Facebook ou ces plateformes WhatsApp ou tout autre pourra faire de ces informations-là. Donc, quelque part, c'est comme j'ai dit au début, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Donc, voilà.
Bien, on est responsable de ce qui nous arrive. Donc, aujourd'hui, il est impossible donc d'avoir une vie privée sur les nets. Donc, la solution, comme vous l'avez dit, c'est tout simplement de se retirer, de fermer toutes ces applications.
Bon, pas nécessairement. Il faut aussi éviter des solutions radicales. Parce que j'ai dit, on peut pas être en marge avec ces plateformes, avec la web sphère, qui, au fait, est en relation avec toutes nos activités. Évidemment, il est vrai qu'on s'expose au profilage social, au cyberharcèlement, au vol d'identité, mais nous avons aussi besoin de ces réseaux pour être en contact avec tout le monde. Et seulement, nous devons accepter les conditions tout en nous battant. Moi, j'ai proposé une fois que si quelqu'un veut nécessairement être sur les réseaux sociaux, qu'il ait un téléphone, un smartphone, qu'il n'utilise que pour les réseaux sociaux et que tout ce qu'il y a comme contenu dans ce téléphone-là, mais soit qu'il accepte que ce soit de l'information, du contenu publiable sur les réseaux sociaux. Voilà. Bien. Là, au moins, il est sûr que tout ce que les réseaux peuvent capturer ne portera pas atteinte à sa vie privée.
Bien. Nous avons, merci à tous les internautes qui ont réagi sur la page Facebook d'Okapi Service. Fariel Malassa, depuis le Kassai, la province du Kassai, pose cette question de savoir pourquoi WhatsApp ou Facebook a repoussé la date du 8 février qui était prévue pour l'entrée en vigueur des nouvelles conditions de gestion des données personnelles. Professeur Koudjou.
Oui, WhatsApp a un peu reculé. Hein. Le mouvement a été vraiment porté par Elon Musk, qui est un milliardaire, parce que en fait, tous ces GAFA ont un pouvoir important. Hein. Ils ont 1000 milliards de capitalisation boursière atteints en 2018 devant Coca-Cola, General Electric, la Bank of America et les quatre plus grosses fortunes aujourd'hui du Nasdaq, qui est la bourse new-yorkaise. Sont des entreprises du numérique. Alors, ce qui se passe, WhatsApp recule et dit que c'est à partir du mois de mai qu'ils vont faire cette convergence des données dans leur synergie de groupe, parce que maintenant, tout ça, c'est la même chose. Alors, les solutions sont lesquelles ? J'appuie beaucoup, c'est que le professeur Kitumou dit, vous craignez pour votre vie privée quand vous avez quelque chose à cacher. Quand vous n'avez rien à cacher, vous aurez peur que les gens entrent dans votre vie privée par rapport à quoi? Donc, en fait, quand vous utilisez les applications ou les réseaux sociaux, et vous le remarquerez dans le comportement qui est très éducatif hein, de la part des Européens, ils ne mélangent pas la vie privée avec la vie professionnelle. Et vous allez remarquer qu'il a un téléphone privé pour appeler sa famille, et il a un téléphone professionnel pour appeler n'importe qui, et souvent, lorsqu'il utilise son ordinateur, dans son ordinateur, il n'a pas téléchargé toutes les applications qui sont de large public. En fait, nous, ici, nous utilisons les smartphones sans pour autant avoir une éducation numérique. Et je signale qu'en France, mes enfants y sont, on commence à apprendre le civisme numérique et la cybersécurité comme cours de civisme à partir de l'école élémentaire. Pour dire aux gens, par exemple, ne mettez pas vos photos sur Instagram, vos photos personnelles. Ce qui se passe également, aujourd'hui, on connaît les relations de tout le monde. Il suffit d'entrer dans une page Facebook et vous connaissez tous les amis de l'ancienne école de X, de l'ancienne école de Y, et vous faites tous les recoupements nécessaires. Mais seulement, c'est un gros coup pour WhatsApp. WhatsApp a assis sa popularité sur deux ou trois éléments techniques et commerciaux. Le premier, c'est le chiffrement, ça veut dire le cryptage, de bout en bout. Si vous écrivez à quelqu'un sur WhatsApp et que quelqu'un veut intercepter les données, c'est de la bouillie. Aucun service de sécurité ne peut décrypter cela ou intercepter les contenus de ce que vous échangez d'un point à un autre. La deuxième chose, c'était l'absence de publicité. Ça veut dire depuis longtemps, en 2014, quand Facebook a racheté WhatsApp, il a cherché le moyen d'éviter que WhatsApp soit gratuit en essayant de rendre payant une offre premium de WhatsApp et une offre gratuite grand public.
Mais professeur Koudjou, lorsque WhatsApp, par exemple, vous propose les conditions générales d'utilisation à petit caractère, les gens, c'est trop long, c'est fastidieux, fatigant, les gens n'ont pas le temps de lire et ils cliquent oui. Est-ce que c'est pas une façon de piéger les utilisateurs?
Bon, le prof Kitumou l'a dit, hein, il n'y a rien d'illégal, c'est un contrat en fait. Vous avez ce qu'on appelle les CGU. C'est des conditions générales d'utilisation. La plateforme appartient à quelqu'un qui s'appelle Mark Zuckerberg. Donc Facebook appartient à un individu qui existe. Il s'appelle Mark Zuckerberg. WhatsApp aussi la même chose. Ça lui appartient. Quand vous venez sur son territoire opérationnel, vous consentez aux conditions d'utilisation. C'est comme quand vous montez dans un bus et vous acceptez cela. Après, maintenant, il y a le captage, ce qu'on appelle l'économie de verrouillage, l'économie de captage. Une fois que vous êtes sur Facebook, pour pouvoir migrer, vous pouvez essayer de le faire, de changer, mais vous ne pouvez pas sortir de tous les groupes WhatsApp que vous avez déjà constitués. Vous pouvez pas changer tout votre entourage pour dire allons sur Signal ou sur Telegram. Et c'est là qu'on nous prend au piège. Mais comment on dit, WhatsApp avait assis justement sa popularité sur le fait que il ne pouvait pas partager les données ni pouvoir vendre les données de ses utilisateurs. Mais le problème se rend pas compte que Facebook a construit en fait une prison de verre pour les gens qui sont entrés chez lui. Facebook est gratuit, même si vous n'avez pas de crédit, ici au Congo, vous accédez à Facebook gratuitement. Et il y avait même des offres où déjà le téléphone que vous achetez dans les différents shops des opérateurs locaux, oui. Vous avez déjà WhatsApp qui est téléchargé sans même que vous ayez accepté les conditions d'utilisation. Donc c'est cette économie de péage, cette économie de rente, cette économie de captage qui fait l'économie numérique et qui fait que si c'est gratuit, c'est nous qui sommes les produits. Quand vous consommez WhatsApp gratuitement, quand même, il faut que quelqu'un paye quelque part. Donc, c'est nous qui sommes devenus la marchandise avec la marchandisation de nos données personnelles. Ce qui fait que maintenant, la solution, et nous la préconisons, c'est d'avoir probablement plusieurs téléphones ou plusieurs appareils et de séparer les aspects de sa vie privée avec les aspects de sa vie, professionnelle. Et puis, ne pas mettre les mauvaises choses. Hein. Les gens se filment dans des positions scabreuses, ils s'envoient
des photos sexuels.
Entre eux. Mmh. Voilà, ils s'envoient des photos entre eux, entre amoureux. Ne le faites pas, parce que si vous n'avez rien à cacher de votre vie privée, on ne saura pas non plus jouer avec votre vie privée.
Bien, comment garantir la confidentialité des données personnelles sur les réseaux sociaux? Des questions et préoccupations, eh bien, composez les 081 890 63 94.
Découvrez les modèles et les talents congolais dans le magazine Étoile. Des hommes et des femmes au parcours exceptionnel. Trouvez une source d'inspiration à travers ces personnes connues et ces citoyens lambda sur Radio Capi. Étoile, de la découverte à l'inspiration. Radio Capi vous propose des hommes et des femmes d'exception. Suivez-les dans le magazine Étoile tout le samedi à 14h05 et 19h05. Puis en rediffusion le lundi à 15h30, heure de Kinshasa.
Au Capi Service, est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui de garantir la confidentialité des données personnelles sur Internet, sur les réseaux sociaux? Eh bien, on en parle dans cette émission. Serge Kingi, vous êtes à Kindu. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aussi à notre invité du jour au niveau du plateau là-bas.
On vous écoute, Serge.
Merveille, d'abord, d'autant plus que c'est maintenant là que je commence à participer à vos émissions. Les sujets sont tellement intéressants, d'autant plus que ce que nous sommes en train de voir actuellement, c'est l'Internet qui est à la une. Alors, j'aimerais un peu montrer quelques avantages et désavantages des réseaux sociaux. Bon. Nous sommes en train d'encourager d'abord l'initiateur des réseaux sociaux, puisque ça nous encourage et ça nous facilite beaucoup de choses pour limiter un peu qu'on puisse aller dans des cyber. Je crois que avec les desktops, laptops, on a limité un peu comment aller avec ça à la mer. Bon, avec le téléphone, ça nous facilite. Mais nous voyons qu'il y a maintenant là des piratages de comptes, surtout sur Facebook. Quelqu'un qui a créé son compte, mais il y a une autre personne qui vient de créer au nom de cette même personne avec sa figure. Et donc, ce sont là quelque chose que nous sommes en train de déplorer. Et il y a aussi quelques montages des gens du Canada. Les gens du Canada sont en train de nous mentir à haut niveau. Envoie-nous 1 million de francs congolais pour que vous puissiez accéder à aller en Europe, vous aurez des opportunités au DV Loterie. Et donc, nous, en tant que Congolais, nous devons être très vigilants par rapport à des réseaux sociaux. Et j'aimerais que l'invité qui est au plateau là puisse un peu décanter quelques solutions s'il a cette opportunité-là. Alors, ma question s'adresse à l'invité du jour. Qu'est-ce qui fait à ce que quelqu'un puisse... comment retrouver quelqu'un qui fait des insultes des autorités provinciales et quelqu'un qui met n'importe quoi à un compte de quelqu'un? Comment lui retrouver et lui mettre hors état de nuire?
D'accord.
Alors, mais aussi, ouais, quelqu'un qu'on a intégré sur un groupe WhatsApp sans son avis, est-ce que c'est une infraction?
Merci. Merci Serge. Intégrer quelqu'un dans un groupe sans son avis. Firmano. Oui?
En finit, j'aimerais dire ceci. Il y a un couple comme ça qui était au lit, je m'excuse. Hein. Ils étaient en train de faire l'amour. Oh, par égard, ils ont publié une photo. En publiant une photo, bon, ils ont cliqué sur un groupe. Cette photo-là a été partagée dans le groupe. Au lieu, ils voulaient, les messieurs-là voulaient envoyer ça à un ami, à un quelconque ami comme ça. Maintenant, au lieu qu'il puisse envoyer son ami
par erreur, il l'a envoyé dans un groupe.
Voilà. Voilà, comment il peut encore se mettre alors que récupérer cette photo-là pour que ça ne s'affiche plus dans le groupe. Merci, j'ai dit, monsieur le journaliste.
Bien. Professeur Kitoum, vous avez la parole.
Je vais réitérer les vœux à Serge. Alors, je vais dire, premièrement, si Serge reçoit les informations de comment aller au Canada, c'est que une fois, Serge a eu à chercher ces informations-là. Donc voilà, son profilage social fait que Facebook lui renvoie ces types d'informations. Alors, pour répondre à ces autres questions, je voudrais revenir sur une chose évoquée par le professeur Kodjo, c'est l'éducation, le civisme numérique, l'éducation aux médias. Autant nous parlons de l'éducation à la citoyenneté, il faut éduquer les gens. Parce que, vous savez, il y a des gens, Serge l'a dit, vous verrez, quelqu'un dans son téléphone, il a Facebook, il a WhatsApp, il a Viber, il a Signal, il a Telegram, il a tout, quoi. Les utilisateurs doivent savoir pourquoi avoir telle application, et puis pourquoi faire avec. En fait, ces différents services, ces différentes applications, ces différentes plateformes ont une utilisation bien précise.
Professeur, il y a certains qui aiment être à la page, avoir Instagram, WhatsApp, Facebook et Twitter et être partout, quoi. Ça fait, on est à la mode, on est à la page.
Ouais, mais c'est ça justement le problème, parce que on s'applique à la mode, parce que tout simplement on n'est pas initié. On pense que, ouais, par exemple, vous êtes en plein hiver ou sous le tropique, vous êtes en manteau, parce que tout le monde s'habille comme ça à Kinshasa. Non, parce que vous n'êtes pas éduqué par rapport à l'habillement du climat. Donc,
évidemment.
Il serait vraiment important qu'il y ait vraiment cette pensée-là. Cette forme, je sais pas comment, bon, c'est un peu difficile chez nous aussi, déjà qu'on n'a pas de réglementation pour nous protéger, et puis il faut maintenant amener le décideur politique, le convaincre à vraiment tabler sur l'éducation aux médias, ou le civisme numérique, déjà que c'est pas son problème, il est ailleurs. Donc, sans cela, nous serons toujours exposés, parce que autant nous crions sur ce que fait WhatsApp, dans l'entretemps, si vous avez tout dans votre téléphone, les autres aussi y prennent. Si WhatsApp collabore avec Facebook parce qu'il appartient à Facebook, Viber a un autre partenaire, Signal, qui est une fondation, et certainement il y a des gens qui mettent des sous dedans, une fondation est financée par des gens, des philanthropes, mais bon, ils ont un intérêt particulier aussi. Donc, on s'expose de toutes les façons. Donc,
professeur, comment aujourd'hui les arnaqueurs arrivent à avoir les numéros de compte bancaire ou vos contacts, ils vous appellent même pour vous dire, voilà, on a une affaire à vous proposer ou bien on engage ici, amener tout ça, nous savons que vous êtes à la recherche de l'emploi. Comment ces gens arrivent à avoir les contacts, les données personnelles des gens?
Mais c'est par ça, en fait c'est ça, c'est l'une des failles des politiques de confidentialité ou de protection des données personnelles, parce que les vols d'identité, comme par exemple, vous en souscrivant sur un site de e-commerce, vous entrez vos données et que par la suite il y a un hacker qui vous suit, vous espionne, du coup il va récupérer vos données d'une manière ou d'une autre. Mais il y a aussi des sites pièges, des sites fantômes qui n'existent que pour arnaquer les gens. En fait, autant il y a des gens qui luttent contre les piratages, autant il y a des pirates qui se forment pour qu'ils ne soient pas attrapés.
Bien, je vais lire la réaction des Firmin Kakoulé depuis Butembo sur Facebook. Je pense que ce que WhatsApp fait, Facebook, est une violation de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Son article où il est stipulé, nul ne sera l'objet d'immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Alors que ça y touche fortement. Professeur Kodjo, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette préoccupation des Firmin Kakoulé?
Non, mais on sent la fibre juridique, mais c'est vrai qu'il existe des droits fondamentaux aujourd'hui. La Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est une valeur partagée par la culture de l'universel, mais ce n'est pas aussi contraignant que ça. Mais en Europe, il existe l'article 8 de la Charte européenne des droits fondamentaux qui dit qu'on ne peut pas atteindre à la vie privée des gens ni à leurs données personnelles en ligne. Mais aussi en République démocratique du Congo, il faut le signaler. Il y a l'article 31 de notre Constitution qui est avant-gardiste, qui dit qu'on doit respecter la vie privée des gens sur tout support de communication, y compris avec les moyens de télécommunication. Alors, il y a également une nouvelle loi, malheureusement qui n'est pas encore publiée, mais qui a été promulguée par le chef de l'État le 25 novembre 2020, par le président Félix Tshisekedi, qui a un titre qui assure la répression de la cybersécurité et qui assure la protection minimale des données personnelles. Donc, c'est vrai qu'on parle de défaut de réglementation, mais ça existe quand même. Maintenant, ce qui nous manque, c'est le service public de la donnée. Comme chaque individu n'a pas les moyens technologiques ni la compétence de pouvoir entrer dans Internet et d'effacer ses données, dans d'autres pays, il existe la Commission nationale informatique et liberté. Dans la loi promulguée en novembre par le président Félix Tshisekedi, cette responsabilité est donnée à l'ARPTIC, donc l'autorité de régulation des postes et des technologies de l'information et de la communication.
Professeur Kodjo, voilà. Permettez qu'on puisse accueillir l'héritier de Kisangani, héritier Ouaminga. Bonjour.
Je vous en prie. Bonjour, messieurs les journalistes.
Bienvenue, héritier. Quelle est votre question, rapidement?
D'abord, je souhaite mes vœux le meilleur à tous les auditeurs de la radio Capi. De toutes les façons, les systèmes de contrôle des réseaux sociaux ne sont pas confidentiels dans la mesure où tout est contrôlé à partir des satellites. Même si nous pensons que nos données sont confidentielles, il ne suffit pas seulement de renforcer les conditions d'utilisation, mais aussi de sécuriser les utilisateurs face aux actions des criminels qui piratent les réseaux. Et aussi les conditions qu'on est en train de renforcer ici. Est-ce que tout le monde lit ces conditions? Est-ce que tout le monde comprend ces conditions? Des fois, les gens qui fabriquent leur compte Facebook ou leur compte WhatsApp, il y a des conditions de confidentialité qu'on lit seulement. Des fois, on ne lit pas, on saute et on passe. Du moins, je suis d'accord pour renforcer le mesure de confidentialité, mais tout est contrôlé à partir des satellites. Nous n'avons pas un système informatique crédible. Voilà.
Bien. C'est ça ma contribution. Merci, héritier. Professeur Kodjo.
Oui, en fait, ce qu'il dit complète un peu ce que je disais. Il faut un service public de la donnée pour pouvoir travailler à la protection de la confidentialité des données avec les géants de l'Internet. Mais il faut aussi avoir des infrastructures. Ailleurs, dans d'autres pays, on a ce qu'on appelle le cloud souverain. En fait, ce n'est pas dans nos téléphones forcément que nous avons nos données personnelles. Regardez seulement quand nous mettons nos numéro de téléphone sur Google Drive, c'est ça. Hein? Ce n'est pas sur notre téléphone que c'est conservé. Et donc, il y a quelqu'un qui a ce coffre-fort numérique ainsi que les clés. Donc, nous, au Congo, on devrait avoir des infrastructures souveraines. Mais pour toutes les questions qui ont été posées, je peux confirmer que ce qui entre sur Internet n'en sort jamais. Mais en Europe, on a créé le droit au déréférencement. Ça veut dire qu'on a obligé les différentes plateformes, lorsque quelqu'un efface ses données personnelles pour une raison ou pour une autre, c'est depuis l'arrêt du 13 mai 2014 en Europe qu'on a demandé que lorsque quelqu'un efface ses données, que ce soit effacé également dans les serveurs par les tenanciers de ces serveurs. Mais nous n'avons pas encore atteint ça. Il existe aussi le droit de rétractation, qui est un droit assez temporaire. Lorsque vous publiez quelque chose par erreur sur WhatsApp, ou même, sur Twitter ou sur Facebook, vous avez la possibilité d'effacer cela en moins d'une heure. Mais bon, ça s'efface également dans les galeries des personnes qui les ont lues ou visionnées sur leur téléphone. Mais seulement après une heure, vous ne pouvez plus rien faire. Et qu'on devrait faire également sur l'identité numérique, il faut que l'identité, les pseudos en Europe sont réglementés. Un peu comme dans la pratique journalistique, lorsque vous vous inscrivez sur votre article avec un pseudo, le rédacteur en chef est au courant de votre vrai nom. En Europe, c'est une infraction, et je le dis parce que je le sais, de pouvoir utiliser une fausse identité sur les réseaux sociaux par rapport à votre véritable identité.
à moins que vous ayez un pseudo qui soit enregistré et qui, dans le cadre des investigations en cas d'injure, en cas d'infraction, pourrait être remonté. Donc voilà, c'est un peu comme ça. Bon, il y a aussi le soft power. On n'en parle pas souvent. C'est la capacité de séduire de ces réseaux. Vous savez que nous avons un réseau social qui s'appelle Masolo, qui présente plus de confidentialité que... C'est conçu par les ingénieurs de l'Unikin. Plus de confidentialité que WhatsApp.
Mais personne ne l'utilise. Un réseau social, congolais.
Congolais qui s'appelle Masolo. Peut-être que je fais la publicité, mais c'est comme ça aussi. Mais Twitter, ça sonne bien à l'oreille. Facebook, ça sonne bien à l'oreille. Je sais pas moi, Google, ça sonne bien à l'oreille. C'est ce soft power qu'on appelle le piège de miel. J'ai vu le professeur Kitou, moi je suis heureux d'avoir cette belle émission de grande qualité avec lui. Ils ont créé justement un miroir aux alouettes, ces Américains, et nous tous nous entrons dedans. Il y a à peu près aujourd'hui plus de 3 milliards, plus de 4 milliards de personnes sur Internet, mais la plupart des éléments de l'architecture de l'Internet sont contrôlés par les Américains. D'autre solution, c'est la Chine et la Russie qui ont créé des infrastructures souveraines dans lesquelles Google, Facebook et les autres n'entrent pas, mais eux, ils peuvent entrer sur Google et Facebook nécessairement pour protéger la moralité localisée de leur population chinoise par rapport à tout ce qui est extérieur et qui ne cadre pas avec la dite moralité.
Bien, professeur Kodjon Dukuma, expert en droit numérique et co-auteur de l'ouvrage « Dématérialisation et gouvernance électronique », merci et excellente journée.
Merci à vous aussi, merci.
Professeur Kitumu, on va bientôt clôturer cette émission. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à la protection, à la confidentialité des données? Déjà, on retient qu'il est aujourd'hui impossible d'avoir une vie privée sur Internet.
Voilà, merci Jordi. Alors, déjà, je voudrais compléter dans la liste des lois citées par le professeur Kodjo, la loi cadre numéro 013 du 16 octobre 2002, qui, dans son article 52, insiste sur les caractères secrets de correspondance émise par voie de télécommunication. Deuxièmement, les différents articles énoncés même par l'intervenant quand il parle de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en fait, le piège avec ces plateformes, c'est que nous approuvons. Ils nous demandent approuver, nous approuvons, nous sommes d'accord déjà de ce côté-là parce que la déclaration dit sans son accord, donc nous donnons notre accord. Mmh. C'est peut-être ça aussi le piège. Le professeur Kodjo parle d'un service public de la donnée. Moi, je pense même qu'il faut un service public du numérique. Parce que vous savez, je dis, il y a un sérieux problème. Vous savez, pendant ce temps, quand il y a conseil de ministres, ça se passe comment ? Sur un outil, sur une application qui a un serveur à l'étranger. Donc, c'est-à-dire des données qui sont échangées sur les questions d'État sont archivées à l'étranger. Donc, il faut une vraie réflexion sur toute la question du numérique sans
Bien.
Complaisance.
D'accord.
Qu'est-ce qui nous permettrait justement de résoudre ces genres de problèmes parce que nous sommes exposés et réellement en danger. Alors je voudrais avant de vous rendre la parole remercier le professeur Kodjo pour cet échange de qualité. C'est pour moi un honneur. J'ai beaucoup entendu parler de lui.
Oui.
Moi je l'ai pas encore rencontré. Donc merci à lui, merci à vous, merci aux différents auditeurs.
Bien, merci professeur Kitumu Maïmon Abeki, expert en communication web. Excellente journée et c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Merci de votre fidélité à ce programme de la vie au quotidien à Okapi Service. Jean-Noël Mokondo était à la mise en onde. Tati Mapuku a assuré la coordination et la réalisation. Au micro, c'est Jody Daniel Kachama. Tout le plaisir était pour nous de vous servir. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine.